Vous savez que nous sommes engagés dans une guerre secrète. Et dans cette guerre secrète, il faut bien reconnaître qu'il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Nous n'avons jamais vu notre chef, à moins que quelqu'un l'ait rencontré visuellement ici. Personnellement, je ne l'ai jamais vu. Nous n'avons jamais vu le chef de nos adversaires. Nous savons son nom, nous savons sa haine, et nous savons son extraordinaire habileté. Mais nous ne savons pas comment il se déplace, à quelle vitesse, nous ne savons pas où il se trouve actuellement, et à quoi il s'intéresse particulièrement dans ce monde. Nous ne savons pas combien il a de troupes, bien que certains aient pu penser, à la lumière d'Apocalypse 12, qu'il avait entraîné dans sa chute le tiers des anges. Mais comme nous ne savons pas le nombre des anges, nous ne sommes pas plus avancés pour autant. Oui, nous pouvons le dire, à cet égard, vraiment presque dans la nuit. Et pourtant, nous avons le privilège d'avoir dans les mains ce livre extraordinaire qui nous décrit les actions de notre adversaire et qui nous décrit comment nous devons réagir aux actions de notre adversaire. Alors nous allons prendre quelques indications que nous retrouvons dans ce livre, je devrais dire ce manuel du combattant, la Bible. Prenons quelques-unes des indications qui nous révèlent la manière de travailler de notre adversaire. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Satan, puisque c'est de lui qu'il s'agit, se déguise en ange de lumière. Il est donc, si je comprends bien, un maître du déguisement. Et s'il se déguise en ange de lumière, ce n'est pas pour s'occuper des gens du monde, mais pour s'occuper de vous. Et moi, c'est bien évident. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, et au verset 15, le Seigneur Jésus avertit ses disciples et leur dit « Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis. » Gardez-vous des faux prophètes. Il y a des prophètes et il y a de faux prophètes. Attention. Dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 2, et au verset 1er, il est dit ceci, « Il y aura de faux docteurs Je vais lire ce texte. « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Et plusieurs les suivront dans leur dissolution. » Faux prophètes, faux docteurs, et l'apôtre Paul, s'adressant, si je ne me trompe, aux anciens d'Éphèse, dans le livre des Actes au chapitre 20 et au verset 29, leur dit « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc. » Satan est un maître du déguisement, mais je ne vous apprends rien. Vous le saviez déjà, vous avez déjà tous lu dans l'Écriture ces affirmations dans la bouche du Seigneur ou de ses apôtres. Mais ce qui me paraît important, c'est que Satan a une telle habileté qu'il déguise ses serviteurs sans qu'ils sachent qu'ils sont déguisés. Je m'explique. Si vous ouvrez l'évangile de Matthieu au chapitre 7, et au verset 22, Vous avez un des passages les plus terribles du Nouveau Testament. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est le déguisement au deuxième degré. C'est l'agent double qui ne sait pas qu'il est un agent double. Alors, vous me direz peut-être que c'est pas précisément notre propos que finalement nous savons, nous les évangéliques, parfaitement ces choses, que ça peut-être bien s'appliquer aux gens de la secte Moon, ou des enfants de Dieu, ou des témoins de Jéhovah, ça concerne les autres. Mais est-ce que ça concerne tellement les autres? Est-ce que la Bible ne s'adresse pas à nous? Dites-moi, quels sont ceux qui aiment prophétiser par le nom du Seigneur? Ce ne sont pas ceux qu'on appelle les libéraux, qui s'occupent plus de politique que de prophétie. Mais à coup sûr, ce sont des évangéliques. Ils prophétisent, ils s'occupent des démons, ils les chassent, ils font même des miracles. Alors c'est un passage, mes amis, qui concerne les évangéliques, dont nous faisons partie. Et il n'a pas été écrit pour les autres. Il a été écrit aussi pour nous. Et nous devons le recevoir de la part de Dieu. Nous devons nous laisser sonder par cette parole. D'autant plus que ce n'est pas la seule. Si nous ouvrons l'évangile de Matthieu au chapitre 13, nous y voyons d'autres choses inquiétantes. Au verset 24. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Et un peu plus loin, verset 36, les disciples qui n'ont rien compris, une fois de plus, ça me fait du bien de savoir que les disciples ne comprenaient pas grand-chose, et devait demander des explications au Seigneur. Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème, c'est le fils de l'homme, le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume, l'ivraie, ce sont les fils du malin, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, la moisson, c'est la fin du monde, les moissonneurs, ce sont les anges. C'est curieux. Les serviteurs se rendent compte que l'ivraie et le bon grain sont mêlés, ensemble, dans le même champ. Mais ces serviteurs, qui sont-ils? Si je comprends bien, ce sont les anges. Ce sont les anges, c'est eux qui vont faire la moisson. Dans notre parabole, Matthieu chapitre 25, au chapitre 1er, pardon, verset 1er, oh, vous connaissez très bien cette parabole, c'est la parabole des 10 vierges. Vous savez ce qui se passe, je ne la relis pas. 10 vierges qui attendent l'arrivée de l'époux. Les unes et les autres attendent, elles sont habillées de la même façon, elles ont chacune une lampe dans les mains, et toutes s'endorment. Toutes s'endorment. Et puis, on annonce l'époux. Et alors, on s'aperçoit, au moment où l'époux arrive, que quelques-unes n'ont pas d'huile dans leurs lampes. Pourtant, rien ne les différencie les unes des autres. Et c'est le même verbe qui est employé ici et que nous avons cité tout à l'heure dans Matthieu 7, verset 23. La terrible parole du Seigneur, « Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. » Lorsqu'elle frappe, vous l'entendez. Voilà des choses qui nous font mal. Elles sont là. Et il faut accepter de les examiner. Se pourrait-il qu'une de ces paroles me concerne? Se pourrait-il que je vive dans l'illusion? Mes amis, si une chose me frappe en ce moment dans mon ministère, c'est bien celle-ci. Les hommes ont d'énormes difficultés à voir ce qu'ils sont, à voir leur réelle situation devant Dieu. Et je crois que si vous avez eu l'occasion de vous occuper des âmes, vous direz la même chose. Il nous semble parfois que nous disons la vérité de 10 façons différentes, mais on ne comprend pas. Il nous est arrivé de dire à certaines personnes des choses grosses comme des montagnes, et ils ne les ont pas vues. C'est gros, c'est énorme. Tout le monde les voit, sauf la personne concernée. Elle vit dans l'illusion. Vous savez ce que Socrate disait, « Connais-toi toi-même ». Je crois que Socrate avait raison d'inviter l'homme à se connaître lui-même. Et vous savez que les psychologues essayent d'amener les hommes à voir ce qui bout dans leur propre marmite et à être capables de le supporter. Mais mes amis, les chrétiens sont comme les autres. C'est pas parce que nous avons la parole de Dieu que nous ne risquons pas de vivre dans l'illusion. Nous avons réellement besoin de la lumière de Dieu. Nous n'avons pas besoin de l'aide de Dieu pour voir les fautes des autres. Alors ça vient tout seul. Et je suis sûr qu'en pensant à tel ou tel de ceux qui sont assis à côté de vous, vous avez des tas de choses à dire. Il est comme ça, elle est comme ça, la vessie, etc. Ah, dans cette vie, ah. Et pour voir vos propres fautes, alors vous avez besoin de la lumière de Dieu. Et peut-être pensez-vous à votre conversion. Au moment où le Seigneur vous a dit, c'est toi qui es comme ça. Regarde, regarde-toi, à ma lumière. Tu as vécu jusqu'à aujourd'hui dans l'illusion. J'ai lu un jour l'histoire suivante qui s'est passée, je crois, en Ardèche. Enfin, elle aurait pu se passer partout ailleurs. L'histoire d'un serviteur de Dieu qui avait reçu de Dieu un jour la conviction que quelqu'un dans l'assemblée ce jour-là allait se convertir. Et Dieu lui avait dit, c'est aujourd'hui que quelqu'un va se convertir. Il était tout content. Alors il prêche. Et puis à la sortie, il se met à serrer les mains, et puis à dire aux gens, la chose qu'il ne veut pas dire, est-ce que ce serait vous? Est-ce que ce serait vous? Vous imaginez un petit peu. Tout le monde sort, personne n'avait dit, c'était pour moi. Il ne restait qu'une personne, l'organiste. Et il y avait, je crois, quelque chose comme 40 ans qu'elle jouait. Alors il s'approche et lui dit, est-ce que ce serait vous? Alors les larmes ont commencé à couler. Oui, c'est moi. 40 ans à faire chanter les autres sans connaître le Seigneur. 40 ans dans l'illusion. Le Seigneur nous a avertis. Attention. Attention. Satan se déguise en ange de lumière. Et dans l'Église, il introduit ses serviteurs qui croient être les serviteurs de Dieu. Je ne suis pas en train de parler contre votre pasteur. Dans l'Église, il introduit l'ivraie à côté du bon vin. Il y a probablement une chose qui nous aiderait à bien discerner où est l'ivraie et où est le bon grain. Nous en parlions avec notre frère Monsieur Jour, il y a quelques heures. C'est la persécution. Alors là, on voit très vite où est le bon grain et où il n'est pas. Mais enfin, nous ne vivons pas la persécution. Alors nous avons besoin de faire attention à la parole de Dieu. Mais il y a d'autres choses qui me frappent. Pas seulement le fait que Satan utilise certains hommes, pas seulement le fait que certaines paraboles sont terriblement gênantes, mais aussi que lorsque le Seigneur Jésus a prêché comme il a prêché, a fait les miracles qu'il a fait, eh bien, il s'est trouvé en face de lui des gens qui ont vécu dans l'illusion. D'abord, les Juifs. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, au verset 37, pardon, oui, 37 à 47, nous lisons ceci. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ah non, pardon, je me trompe. 5, 37. Excusez-moi. Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Mais dites-moi, est-ce que cette parole ne pourrait pas s'adresser aussi aux chrétiens évangéliques? Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Ah, la gloire évangélique. Nous parlions avec votre pasteur dans le car du vedettariat évangélique, enfin d'une certaine catégorie. C'est très dangereux. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Que l'Église ne soit jamais par pitié une société d'admiration mutuelle. Ce devient une catastrophe. Comment pouvez-vous croire? Alors, il y a ces Juifs, ils sondaient les Écritures. Ils écoutaient Jésus. Et ils vivaient dans l'illusion. Et parmi ces Juifs, il y en a qui sont vraiment appelés des disciples. Ce n'est pas moi qui parle, c'est l'Évangile. Je lis ceci dans Jean chapitre 6, au verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Qui peut l'écouter? Et Jésus est obligé d'ajouter un peu plus loin au verset 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Et ils se prétendaient ses disciples. Mais parlons un peu de ceux qui croient. Un peu plus loin, Jean chapitre 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Fantastique, non? Ils crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libre? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et il leur dit ensuite des choses extrêmement dures. Il leur dit, vous avez pour père le diable. Et ce sont des gens dont l'Évangile nous dit que plusieurs crurent en lui. C'est quand même dur cet évangile, n'est-ce pas? Mais il est écrit pour nous cet évangile. Et puis allons plus loin. Parmi ces gens qui ne croyaient pas, enfin, qui croyaient, qui étaient des disciples, qui ont vécu 3 ans avec le Seigneur, qui voyons-nous? Nous aurons quelques peines à lire, mais on va essayer de continuer. Oui, merci beaucoup. Il y en avait un. Il y en avait un qui a été un apôtre. Et si nous examinons ce qu'a été la vie de Judas, il nous est dit que Jésus en prit 12 et qu'il les envoya avec le pouvoir de quoi faire? De guérir les malades, de proclamer la bonne nouvelle, de chasser les démons. Et Judas l'a fait. Judas l'a fait. Et Judas vivait dans l'illusion. Et pourtant, il a chassé des démons, il a guéri des malades et il a prêché la bonne nouvelle. Et puis, est-ce que la situation a changé lorsque le Saint-Esprit a été donné? Mais ouvrons le livre des Actes et regardons ce qui est dit dans Acte 8. Vous connaissez cette histoire? L'histoire d'un homme qui a vu Philippe accomplir des miracles fantastiques, qui a entendu la bonne nouvelle de l'amour de Jésus, qui a su que Jésus était réellement ressuscité, Simon, le magicien. Alors, il a brûlé ses livres, il a dit « j'accepte cette parole », il a été baptisé par des gens pleins du Saint-Esprit qui n'y ont vu que du feu. Ça me fait plaisir. Seul le Saint-Esprit y voyait parfaitement clair, mais ces gens qui pourtant étaient des hommes de Dieu comme Philippe, ils n'ont vu que du feu. Et quand Pierre arrive, Simon lui offre de l'argent pour pouvoir lui aussi répandre le Saint-Esprit. Et vous savez comment Pierre lui répond? Que ton argent périsse avec toi. Un homme qui a accepté la parole, qui a brûlé ses livres, qui a été baptisé au nom du Seigneur. Alors, est-ce que depuis l'histoire de l'Église primitive, les choses ont changé? Vous avez entendu parler de John Wesley, cet homme de Dieu très remarquable. Vous savez ce qu'a été le début de sa vie chrétienne? C'était un type fantastique, John Wesley. Il avait fondé à Oxford un club de sainteté, vous entendez? Un club de sainteté, il en voulait, si je peux me permettre l'expression. Et il est parti comme missionnaire en Amérique. Et il s'est converti sur le bateau au retour. Et oui, il a vécu dans l'illusion, et il a dit, j'ai réalisé que moi qui étais parti pour annoncer l'évangile, je n'avais jamais été réellement converti à Jésus-Christ. C'est à travers, je crois, le témoignage de Morave qu'il s'est tourné vers Dieu. Et il est devenu alors un homme de Dieu. Mais il a été missionnaire, vivant dans une pleine illusion sur sa situation réelle devant le Seigneur. Vous savez ce qu'a dit Maurice Ray? Vous connaissez, je pense, son nom, et vous l'avez sûrement entendu. Il a dit, j'ai été 8 ans pasteur avant d'être chrétien. Mes amis, c'est sérieux d'examiner ces choses. Vous savez ce que disait le docteur Schaeffer? Il a eu l'occasion de dire plusieurs fois qu'il avait reçu à l'abri en Suisse, dans le centre qu'il a fondé, des hommes qui lui ont dit, nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et le docteur Schaeffer ajoutait, mais il n'était même pas sûr que Dieu était vivant. Il n'était même pas sûr de l'existence de Dieu. Et il disait, nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Illusion, 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 illusion. Ceci dans le sein de l'Église de Jésus-Christ et dans les milieux évangéliques. Alors mes amis, s'il y a une chose que nous n'avons pas le droit de vivre, c'est bien cette illusion. Et je comprends mieux alors certaines paroles de l'Écriture. À la fin du psaume 139, peut-être nous aurons l'occasion de le chanter, parce que je suis sûr que nos frères connaissent ce verset en chanson. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Dis-moi si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Nous avons réellement besoin que la lumière de Dieu nous éclaire. Où est-ce que j'en suis à l'égard du Seigneur? Est-ce que je vis vraiment une vie chrétienne? Ou est-ce que je suis en train de m'illusionner et simplement de vivre un christianisme sociologique, parce que je suis bien dans ce milieu? Et alors, ce qui me fait le plus mal, c'est que il arrive que des serviteurs de Dieu qui sont de véritables serviteurs de Dieu, qui veulent prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, deviennent des marchands d'illusions et servent en fait Satan en laissant croire aux gens qu'ils sont chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Et on dit aux gens, vous pouvez être sûr de votre salut. Et les gens ont l'assurance de leur salut et ils n'ont pas le salut. C'est une tragédie, mes amis, de voir que trop souvent nous risquons d'induire les gens en erreur et de leur donner un faux évangile. Comment peut-on devenir chrétien s'il n'y a pas de conviction de péché? Comment peut-on devenir chrétien si la vie n'est pas réellement changée au moment où on le devient? Et je me permets de citer quelques cas qui sont sans doute des cas limites. Mais de gens, je ne sais pas quelle est leur nationalité et je ne sais pas leur nom. Alors je peux y aller, hein. Je sais qu'ils ne sont pas français, c'est tout ce que je peux dire. C'est une Sud-Africaine qui m'a raconté ça. Alors c'était peut-être un Sud-Africain. Un homme qui prêchait l'évangile. Et puis, lorsqu'il a eu prêché son message, il a fait un appel. Et il voulait tellement qu'il y ait des gens qui acceptent. Il a demandé aux gens de lever la main. Aucune main ne s'est levée. Alors vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, merci, oui, je vois cette main. Merci, oui, merci. Et les mains se sont levées après. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Je garantis l'authenticité du fait, mes amis. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est qu'un homme qui pense qu'il est vraiment un serviteur de Dieu est en train de mentir pour honorer son Dieu. Est-ce que c'est vraiment pour honorer son Dieu? Ou peut-être pour s'honorer lui-même? Il y a tant de personnes qui ont reçu le Seigneur aujourd'hui. Je pense ici à une amie qui habite la région parisienne. Elle faisait partie d'une communauté qui, pratiquement à chaque réunion, invitait les gens à accepter le Seigneur et à le manifester. Enfin, elle faisait partie, elle assistait dans cette communauté. Son mari était chrétien, elle ne l'était pas. Et toute la famille pesait terriblement sur elle. Oh, elle n'est pas encore chrétienne, etc. Et chaque fois qu'on la voyait, elle sentait cette pression terrible. Et un jour, elle s'est dit, j'en ai marre, aujourd'hui, je lève la main. Et ce dimanche-là, il y a eu l'appel habituel, elle a levé la main. Oh, merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu, elle est sauvée. Elle n'était pas sauvée du tout, elle voulait qu'on lui foute la paix. Et ce qui est formidable, et c'est ça la grâce de Dieu, mes amis, c'est que quelques temps plus tard, elle s'est réellement convertie. Alors ça, c'est ça l'amour de Dieu. Le Seigneur est formidable, hein. Alors nous faisons tous des boulettes. Heureusement que le Seigneur les répare. Et je ne suis pas en train de condamner telle ou telle forme d'appel. Si Dieu a conduit tel ou tel de mes frères à agir ainsi, qu'il soit béni par nous. Et je pense ici, pour illustrer ce que je veux dire, à l'histoire de cette femme qui est devenue membre de notre communauté. Elle assistait à une réunion un jour où elle avait été invitée par son fils. C'était un ami qui parlait dans une banlieue de Paris. Et pendant tout le temps de cette prédication, cette femme s'est dit, mais il est complètement fou ce bonhomme. Mais c'est pas possible qu'il y ait des gens qui écoutent de telles bêtises. Pendant tout le temps de la prédication, voilà ce qu'a été son raisonnement. Et à la fin de sa prédication, ce frère tout simplement dit, maintenant je vais vous demander de vous engager pour Jésus-Christ. Qui c'est qui veut aujourd'hui accepter Jésus-Christ? Qui le manifeste en levant la main? Et cette femme m'a dit, je n'ai pas pu m'empêcher de lever la main. Dieu lui a dit, vas-y, c'est le moment. Et elle est devenue chrétienne ce jour-là. Alors, Alors Dieu travaille tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il y a une chose que Dieu ne voudrait pas, c'est que nous vivions dans l'illusion, mes amis. Alors ça, l'illusion, je dirais, c'est la marque satanique. Il est le marchand d'illusion par excellence. L'obstacle par excellence, c'est celui-là. Finalement, qu'est-ce qui empêche toute vie chrétienne? Qu'est-ce qui nous empêche de vivre la vie chrétienne? Par excellence, c'est le fait de ne pas être chrétien. Alors on peut prier, on peut lire la Bible, on peut chanter des cantiques, on peut être ancien, on peut être pasteur, on peut être ce que vous voulez, évêque, pape, et vivre dans la plus terrible illusion. Et tout cela, c'est du vent. Cela ne vaut rien. C'est la marque d'une nature mauvaise qui s'est habillée d'un habit religieux, même évangélique. Illusion. Quelle tragédie que cette illusion. Mais alors, quand même, comment dissiper l'illusion? Qu'est-ce qu'il faut faire pour dissiper l'illusion? Alors, la Bible nous dit quand même certaines choses qui devraient nous travailler. Le Seigneur Jésus a dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. On ne cueille pas des raisins sur des épines. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Oui, j'ai encore quelques instants. Il a employé aussi une autre image, l'image de la brebis. Et à quoi reconnaît-on la brebis du bon berger? La brebis du bon berger est marquée à deux endroits du corps. Vous savez que chaque brebis est marquée dans un troupeau. On connaît le nom de son propriétaire par sa marque. Mais les brebis du Seigneur sont marquées à deux endroits. Elles sont marquées à l'oreille et au pied. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. On reconnaît la brebis à ce qu'elle entend, à ce qu'elle écoute et à ce qu'elle suit. L'autre jour, j'étais avec une sœur dont le père était berger. Non, c'est pas son père, c'est son mari. Avant son mariage, son mari était berger. Et elle m'a dit que lorsque son mari, à 3h30 du matin, arrivait dans le village et simplement marchait dans la rue principale, alors que tout était silencieux, là-bas, un peu plus loin dans la bergerie, les brebis se réveillaient. Elles avaient entendu le pas du berger. Et il me semble discerner dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, comme des oreilles qui bougent, les brebis entendent les pas du berger qui vient. Et je voudrais que pendant ces quelques heures ensemble, nous puissions entendre les pas du berger qui vient. Le Seigneur est proche. Et il ne faut pas être dans l'illusion. Il y a encore autre chose que nous dit la Bible, c'est que le Seigneur donne à ceux qui l'acceptent la vie éternelle. Et cette vie éternelle se reconnaît à quoi? À sa qualité. À sa qualité. Je me rappelle ce que disait un serviteur de Dieu à Lausanne en 74. Il disait, le temps vient où on va réellement discerner ceux qui appartiennent au Seigneur et ceux qui n'y appartiennent, qui ne lui appartiennent. Il y aura ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas. La vie éternelle se reconnaît à sa qualité. C'est une vie dans l'amour. C'est une vie dans l'amour. Est-ce que j'aime vraiment les autres? Alors, nous avons tous ici entendu l'Évangile. Nous avons compris l'Évangile. Il est même possible que nous ayons été émus par l'Évangile, par telle ou telle histoire troublante qui a été rapportée. Et je me rappelle ce jeune homme que j'ai vu dans un camp près de lui, sangloter, je le revois encore, sangloter sur ses péchés, disant « Pardon, pardon, pardon ». Mais il n'est pas chrétien aujourd'hui, mes amis. Il avait compris, il avait été touché, mais sa volonté n'avait pas été touchée. Et il ne s'est pas engagé à la suite du Seigneur. Et je l'ai vu sangloter sous son péché. Quelle tragédie. Alors est-ce que notre nature a été réellement changée?
C'est ce que le Seigneur souhaite.
Et j'aimerais conclure en disant que Dieu nous a donné finalement trois points pour établir nos certitudes. Trois bases, si vous voulez. Trois bases importantes. La première des bases est celle-ci. Les affirmations de la parole de Dieu. On devient chrétien en acceptant les affirmations de la parole de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque se confie en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà une des affirmations massives de la parole de Dieu, qui résume tellement l'amour de Dieu pour nous. Bon, alors, ma certitude est basée sur ces affirmations de la parole. Et je peux être certain, quand Dieu dit quelque chose, c'est vrai. Mais ce qu'il faut, c'est que je comprenne bien ce que Dieu dit. Il y a une deuxième base à ma certitude. C'est l'expérience. Certitude bibliquement basée et expérimentalement basée. Qu'est-ce que je vis de la vie chrétienne? Qu'est-ce que je vis réellement de la vie chrétienne? Est-ce que j'aime la parole de mon Dieu? Est-ce que j'aime parler avec lui? Je dis pas est-ce que j'aime venir aux réunions quand il y a des copains, mais est-ce que j'aime me retrouver seul avec mon Dieu pour parler vraiment face à face? Est-ce que j'aime le chercher? Est-ce que je peux dire ce que disait quelqu'un qui en savait moins que nous? Un psalmiste dans le psaume 119. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Est-ce que je peux dire que j'ai soif de Dieu? Est-ce que j'expérimente ces choses? Est-ce que j'ai vu un changement dans ma vie? Est-ce que j'ai reçu une puissance? En fait, est-ce que j'ai changé? Oui ou non? Véritablement. Quand j'ai rencontré Jésus. J'ai peur, mes amis, parce que je sais, et vous le savez aussi, qu'au jour du jugement, il va y avoir de terribles surprises. Et je ne voudrais pas que nous puissions vivre dans l'illusion, alors que cette parole est parfaitement claire. Dieu ne veut pas que nous vivions dans l'illusion. Mais il faut nous examiner à la lumière de Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix. Est-ce que j'ai ces choses? Au moins un peu. Je ne dis pas la mesure de la stature de Christ, mais au moins quelque chose de ça dans ma vie. Ou bien est-ce que c'est une défaite perpétuelle? Et puis, il y a une troisième base à ma certitude. C'est une base sociologique, j'allais dire. C'est l'expérience des autres. Et c'est pour ça que c'est tellement bon d'entendre des témoignages. Des témoignages qui sonnent vrais. Parce qu'il y a des témoignages qui sonnent vrais et il y a des témoignages qui sonnent faux. Et vous le savez comme moi. Il y a des témoignages qui sonnent vrais. Et je vais raconter deux histoires. L'histoire d'un de mes amis qui lui aussi est en train de mourir d'un cancer. Un homme de Dieu remarquable. Un homme qui n'a même pas le certificat d'études. Qui avait juste je crois qu'il avait suivi l'école jusqu'au CE1. Et cet homme a reçu pendant 3 ans chez lui les témoins de Jéhovah. Et il écoutait les témoins de Jéhovah et il lisait la Bible. Et il se disait, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Non, non. Et un jour, il a prié, il a dit, Seigneur, je t'en prie, qu'il ne vienne plus. Et la fois suivante, lorsque ces hommes sont venus, ils lui ont dit, écoutez, vous ne voulez pas venir dans la salle, vous ne voulez pas être baptisé, alors nous ne viendrons plus chez vous. Et il a dit, Seigneur, merci. Et peu de temps après, il était invité à une étude biblique. Et il m'a dit, je suis allé dans cette maison où se tenait l'étude biblique et je n'ai pas voulu m'asseoir. C'est vous dire s'il était prudent. Je n'ai pas voulu m'asseoir. Et là, j'ai entendu parler de Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même devenu un homme par amour. Alors, quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma femme, tu sais, nous avons trouvé le troupeau. Nous avons trouvé le troupeau. Ils pensaient qu'ils étaient tout seuls. Nous avons trouvé le troupeau. L'expérience des autres. Des frères. Enfin, des frères. Et je pense à un homme dont vous connaissez probablement le nom. Monsieur Tarasenko, le père de Serge Tarasenko, le physicien nucléaire. Cet homme s'est converti en lisant un Nouveau Testament sur un navire de guerre à Bizerte. Il a vraiment reçu le Seigneur et il a commencé sa vie chrétienne. Et il a vécu 10 ans tout seul. Vous entendez? Tout seul. Et ici et là, il allait, il entendait parler de Jésus, mais non, c'était pas ça, c'était pas ça, c'était pas ça. Il n'était pas là. Et puis un jour, 10 ans plus tard, il a rencontré des frères, des vrais. Ben, c'est ça. Voilà le bon. 10 ans tout seul. Et l'expérience des autres a été une confirmation de son expérience. Alors, la parole de Dieu, mon expérience et celle des autres. Et j'espère que ce soir, nous pouvons réaliser que ces trois choses sont les bases de notre certitude. Et qu'en écoutant tel ou tel des expériences ou des histoires que je rapportais, vous vous êtes dit, mais c'est ça que je vis. Je vis ça. Jésus, je l'ai réellement rencontré. Je ne peux pas douter que je l'ai rencontré. Je l'aime. Je l'aime. Alors si vous aimez réellement Jésus, alors je ne fais pas souci pour vous. Mais peut-être ce soir, dans votre chambre, devrez-vous prier. Pour dire au Seigneur, montre-moi où j'en suis. Montre-moi vraiment où j'en suis. Je ne veux pas vivre dans l'illusion. Seigneur, tu es lumière, éclaire-moi de ta lumière. Je t'en prie. Prions ensemble. Ô notre Seigneur, que c'est solennel d'ouvrir ta parole. Comme elle est dure, cette parole. Qui peut l'écouter? Comme elle juge. Mais Seigneur, c'est ta parole, et nous voulons nous laisser juger par elle. Ô notre Dieu, continue de nous parler. Ô notre Dieu, sonde notre cœur. Et même si nous sommes les tiens, Seigneur, si nous sommes en train de suivre une mauvaise voie, alors éclaire-nous, je t'en supplie, éclaire-nous. Sonde-nous, ô Dieu, et connais notre cœur. Regarde, si nous sommes sur une mauvaise voie, et...